France Musique.
Bon week-end, Nicolas Lafitte. À lundi matin, dès l'aube.
On va déborder un petit peu. Le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous et merci de nous accompagner ce matin encore dans les coulisses de la musique à Radio France. C'est d'ailleurs tout le propos de Fabrication Maison. Notre invité du portrait ce matin, ce sera Gérard Berru, le directeur de l'hôtel Bedford. Jérôme Sandlaz, lui, est réellement allé dans les coulisses des studios dimanche dernier pour découvrir comment se préparait l'émission 42e rue. Une émission un peu spéciale. Puis nous retrouverons nos rendez-vous habituels, la chronique de Marie Fauché à 8h20, les archives toujours rares de Jean-Yves Patte à 8h30, l'un de vos souvenirs, auditeurs fidèles, à 8h45 et Question de cœur à 9h50 avec Sophie Janin. Nous avons fort à faire ce matin, alors on y va.
France Musique.
Bonjour Gérard Berru.
Bonjour.
Alors, vous commencez à devenir un nom assez familier pour les auditeurs de France Musique, surtout les noctambules, car vous accueillez dans votre hôtel, le Bedford, depuis le mois de septembre, l'émission de Lionel Esparza, Classic Club, du lundi au jeudi à 22h30. C'est agréable ?
C'est très agréable et j'en suis très content parce que la tradition musicale de l'hôtel Bedford se perpétue au travers sous une autre forme. Et je dois dire que il y a une ambiance formidable tous les soirs à partir de 22h30 jusqu'à minuit.
Alors l'hôtel Bedford, c'est un peu votre vie.
C'est ma vie, c'est une histoire de famille, c'est un hôtel de famille, c'est un hôtel qui a une particularité à deux titres. Particularité d'abord d'appartenir à la même famille, à ma famille depuis plus de 100 ans. Et c'est mon grand-père qui a commencé, il s'est lancé dans l'hôtellerie, il avait quitté la Suisse, un petit village du canton du Valais, et il a commencé au bas de l'échelle. Il a commencé comme groom, comme valet de chambre, et puis il est devenu concierge de l'hôtel Meurice, puis de l'hôtel Bedford, et directeur de l'hôtel Bedford. Et il a acheté petit à petit les parts de cet hôtel. Voilà, en 1914 est arrivée la guerre. Mon grand-père s'est engagé, a pris la nationalité française pour rejoindre les troupes françaises contre l'ennemi. Voilà.
Et alors vous, Gérard Berru, petit garçon, vous avez grandi dans cet hôtel et ça a été l'occasion de pas mal de rencontres.
Thank you.
L'Andantino Espressivo des Préludes pour guitare dans une transcription pour piano de José Vieira Brandão, de l'œuvre donc de Heitor Villa-Lobos, et par la pianiste Sonia Rubinsky. C'est votre premier choix, Gérard Berru, et ça n'est pas sans lien avec votre propre histoire.
Voilà, j'ai choisi ce morceau que j'aime particulièrement, interprété aussi par Sonia Rubinsky, qui a enregistré toute l'œuvre pour piano et qui a joué plusieurs fois à l'Hôtel Bedford pour les concerts que j'organise de temps en temps. Et j'ai aussi, quand je vous disais que l'Hôtel Bedford était atypique, moi-même je suis né à l'Hôtel Bedford.
Oui, ça c'est assez extraordinaire.
Chambre 419. Et donc c'est là où j'ai poussé mon premier cri. Voilà.
Votre premier chant. Allez. Et alors il paraît que le petit garçon que vous étiez.
Voilà, j'avais.
Croisait quelques personnalités.
Voilà, je croisais des personnalités et notamment Villa-Lobos qui était dans le hall déjà le matin avec son cigare et il recevait aussi. Quand il était là, souvent il y avait le guitariste Andrés Segovia. Ils travaillaient ensemble et se corrigeaient.
Est-ce que le petit garçon que vous étiez entendait de la musique, Gérard
Alors,
Berru?
Écoutez, il avait un piano à l'hôtel. Oui, j'entendais de la musique, mais au travers, dans les couloirs, au travers d'une porte, ce qui fait que je n'avais pas vraiment un concert qui m'était donné.
Non. Personnel et privé.
Voilà, non.
Et alors, c'est amusant cette tradition, Gérard Berru, qu'avaient certains artistes, je ne sais pas si c'est une tradition qui se poursuit, de vivre à l'hôtel, finalement.
Oui. Paris est un lieu qui a attiré le monde entier culturel, que ce soit les peintres, les écrivains, les musiciens, les compositeurs. Donc, était attiré par Paris où il se passait quelque chose d'extraordinaire. Toujours aujourd'hui d'ailleurs, peut-être un peu moins, mais bon, quand même. Et c'est vrai que lorsqu'on a la chance de vivre dans un hôtel qui a pour vocation de recevoir des gens du monde entier... Et donc,
c'est un lieu de rencontre extraordinaire.
Oui. C'est une grande maison, comme une maison particulière. Voilà.
Alors, je ne pense pas que vous ayez entendu chanter la musique suivante dans l'hôtel, mais c'est en tout cas un très beau cadeau que vous nous faites, un extrait d'Alcina d'Händel.
Thank you.
Vous aimez cette voix, Gérard Berru ?
Oui, j'aime beaucoup cette magnifique voix.
Celle de Magdalena
Kojena, et qui me touche profondément. Et notamment Händel, dans Händel, elle est absolument sublime, je trouve.
C'était donc l'air A mio corde, extrait d'Alcina de Händel. Elle était avec l'Orchestre baroque de Venise que dirigeait Andrea Marcon.
Voilà, donc j'ai découvert la voix quand je suis venu à la musique classique, peut-être un peu tard, vers 18-20 ans. C'était une fois en voiture, j'écoutais, j'ai entendu un air, c'était Kathleen Ferrier. Mmh. J'ai arrêté la voiture et ça a été le déclic pour moi. Voilà.
Et depuis, vous avez gardé cette passion pour la voix.
J'ai gardé cette passion pour la musique classique, mais pour la voix en particulier, oui. Oui, oui.
Alors, il y a un piano magnifique, d'ailleurs, à l'hôtel Bedford, Gérard Berru, dont vous êtes le directeur, voilà. Je le rappelle à vos éditeurs. Il y a une tradition de musique dans cet hôtel, ça n'est pas toujours le cas.
Non, alors j'ai eu la chance, enfin c'est comme ça, cet hôtel Bedford a eu la chance d'accueillir Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, et puis beaucoup d'interprètes aussi. J'avais des conversations avec Yuli Menuhin, avec Maria Joao Pires, qui descend régulièrement à l'hôtel Bedford.
Et quel homme chanceux vous êtes.
Voilà, vous savez, quand on a un hôtel, on fait des rencontres intéressantes, et puis on est amené à faire plaisir aux gens. Notre métier, c'est de faire plaisir. Et je dis à tout le monde, mon plaisir est de faire plaisir.
Surtout à des interprètes qui ont besoin qu'on les entoure et qu'on s'occupe d'eux quand même.
Oui.
C'est fragilisant, ouais. Le métier d'interprète.
Oui. Oui, c'est pour ça qu'on a créé, il y a une douzaine d'années, le salon de musique de l'hôtel Bedford. J'ai fait ça avec Katharina Stabel, qui est une femme qui a une oreille absolument magnifique et qui était vice-présidente des Amitiés Lyriques et qui m'a beaucoup apporté. Et donc... voilà, c'est du mécénat, on fait ça pour à peu près 4-5 fois par an pour aider les jeunes qui ont choisi ce métier.
D'ailleurs, il y a bientôt un petit concert qui va avoir lieu, je crois, au mois de novembre.
Voilà, novembre, il y a un concert piano. Uh-huh. C'est un jeune garçon qui s'appelle Guillaume Bellhomme.
Je crois qu'on le connaît sur France Musique.
Que vous connaissez, oui.
Qui va donner un récital, donc.
Qui va donner un récital, voilà, ce qui dure à peu près une heure et quart. Et il y en aura d'autres après, en janvier, mars. Voilà, on n'a pas encore arrêté exactement les interprètes.
Alors, vous nous avez dit, Gérard Berru, que vous aviez un petit côté suisse. Et justement, je pense que le choix qui vient est un petit peu lié à ça. C'est Michel Corbeau.
Thank you.
C'est l'ensemble vocal de Lausanne et le Sinfonia Varsovia, dirigé par Michel Corbeau, ou Corbeau, ça dépend si l'on est savoyard ou pas, qui interprétait cet Agnus Dei, extrait du Requiem de Gabriel Fauré. Et Gabriel Fauré, Gérard Berru, ça n'est pas un inconnu pour l'hôtel Bedford.
Non, il a vécu à l'hôtel Bedford.
Mais pourtant, il était parisien.
Il était parisien. Il avait le Requiem de Fauré a été, il l'a écrit lorsqu'il habitait boulevard Malesherbes. Mais il a vécu aussi à l'hôtel Bedford. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas, mais il a vécu à l'hôtel Bedford parce que Camille Saint-Saëns, qui était son professeur, qui avait 10 ans de plus que lui, avait vécu à l'hôtel Bedford. Ils étaient, enfin, d'abord Camille Saint-Saëns, maître de chapelle à la Madeleine, puis tenait l'orgue à la Madeleine, et ensuite, bien souvent, Gabriel Fauré le remplaçait lorsqu'il voyait, puisque Camille Saint-Saëns voyageait beaucoup, et donc Gabriel Fauré le remplaçait régulièrement, et il est devenu maître de chapelle à la Madeleine, et il est devenu le directeur de l'orgue de la Madeleine. Et
le Madeleine qui est tout à côté de l'hôtel.
Tout à côté de l'hôtel, le Requiem de Fauré a été joué pour la première fois, voilà, à l'église de la Madeleine.
Vous devez avoir des trésors dans l'hôtel, Gérard Berru, non ?
Alors, nous avons des petits trésors, il ne faut pas exagérer, mais on a certaines correspondances, on a...
Justement, de ces compositeurs
de ces
que
compositeurs,
vous évoquez.
Voilà, j'ai quelques lettres de Camille Saint-Saëns, écrivant à Gabriel Fauré, et puis j'ai quelques textes aussi, quelques lettres de Villa-Lobos, sur papier en tête, hôtel Bedford.
Mais il n'y a pas que la musique qui vous intéresse, Gérard Berru, je crois que vous êtes curieux de toutes les formes d'art. Et la peinture tient pas mal de place également,
oui,
à l'hôtel Bedford.
Oui, c'est vrai. La peinture tient une place très importante. Moi, je suis très amateur de peinture. C'est une chose aussi qui fait partie de ma vie. Et j'ai constitué ces 30 dernières années une collection autour d'artistes que j'aime bien. Ces artistes, il y a André Baudin, Raoul Lubac, Sam Safran, qui est un être extraordinaire, qui fait un travail magnifique et il a un succès fou maintenant. Et j'ai bien fait de décorer certaines chambres de ses œuvres au bon moment, parce qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus le faire. Voilà.
C'est un jeu de correspondance, finalement. Votre goût pour la musique se nourrit de la peinture, votre goût pour la peinture se nourrit de la littérature.
Ben, la littérature est aussi présente à l'hôtel Bedford, parce que chaque année, nous avons à Paris le Salon du Livre, qui est très important sur le plan mondial, et nous avons la chance d'accueillir les écrivains et éditeurs qui sont invités, enfin, du pays, invités d'honneur. Donc, ils logent tous à l'hôtel Bedford. On a aussi Henri Beck qui a écrit cette pièce de théâtre, La Parisienne, qui a été écrite à l'hôtel Bedford en 1875, par là, voilà.
Alors, on est sur l'histoire des rencontres. Il y a un musicien qui aime les rencontres, lui aussi, c'est Jordi Savall. Et c'est votre 4e choix musical, Gérard Berru.
Oui, merci.
Oh, Yasemi, στην πόρτα σου, Yasemi μου. Το Yasemi στην πόρτα σου, Yasemi μου. Thank you.
Alors nous écoutions Gérard Berru, un chant traditionnel chypriote, interprété magnifiquement par Irina Derebaï avec Jordi Saval. Et comment avez-vous découvert cette musique? Ça n'est pas tout à fait la musique qu'on joue à l'hôtel Belfort peut-être?
Non.
Pas encore.
Pas encore, pas encore, mais ça va venir parce que c'est quand même magnifique ce
morceau,
il est splendide. Mmh. Et alors je l'ai découvert en Suisse l'été dernier. En écoutant une émission de la radio suisse romande.
Excellente radio.
Et j'ai tout de suite pris mon petit carnet, j'ai noté le nom et voilà, j'ai retrouvé. Et je dois dire que c'est une découverte. Je suis content d'avoir fait cette découverte.
Vous en ferez encore d'autres, j'imagine, si oui. Vous avez l'oreille aussi ouverte. On parlait hors antenne, Gérard Berru, de ce qui fait aussi le bonheur de la vie. C'est le travail en équipe, en fait, cet hôtel. C'est à la fois toutes ces rencontres que vous faites avec les gens qui y passent et qui y dorment, mais c'est aussi les gens avec lesquels vous travaillez.
Oui, oui. À l'hôtel Bedford, nous avons une équipe formidable. Et moi, je suis très attaché. Ils savent d'ailleurs l'estime que j'ai pour eux. Et vraiment, tout le monde donne le meilleur d'eux-mêmes. Et ils ont compris aussi que leur plaisir était de faire plaisir. Et faire plaisir, c'est une satisfaction. Et en ce moment, j'ai une de mes collaboratrices qui a des problèmes de santé. Je peux vous dire que tout le monde est là quotidiennement à prendre des nouvelles, à la soutenir, à l'aider. C'est vraiment formidable. J'ai cette chance de pouvoir travailler dans des conditions exceptionnelles.
Donc quand on met le pied un petit peu à l'hôtel Bedford, on rentre un petit peu dans la famille Bedford.
Oui, c'est une famille, si on veut. Voilà, c'est comme ça. Mais un hôtel, vous savez, on est dans la vie privée de nos clients. C'est là où ils dorment, c'est là où ils prennent les petits déjeuners. On prend des messages pour les clients. On voit des paquets qui arrivent, des très belles boutiques parisiennes. Donc on sait que madame a acheté, tiens, un beau paquet. Voilà. Donc on sait un peu ce qui se passe. Et on est dans la vie privée des gens. Ils me connaissent, ils connaissent nos collaborateurs, ils ont confiance en nous. Et ils savent que s'ils ont le moindre souci, on est là.
C'est peut-être ce qui fait que Maria Joao Pires revient régulièrement dormir à l'hôtel Bedford. La couronne de la partita numéro 1 en si bémol majeur de Jean-Sébastien Bach par Maria Joao Pires. Merci pour ce partage de la musique, Gérard Berru.
Merci Dominique pour ce bon moment.
Alors on se retrouve tous, lundi soir chez vous, à l'hôtel Bedford, pour le prochain Classic Club de Lionel Esparza. Vous nous redonnez l'adresse de l'hôtel ?
17 rue de l'Arcade. Paris 8e, métro Madeleine, tout près de la place de la Madeleine.
Et vous l'avez compris, chers auditeurs, on y est très bien accueillis. En 1963, le pianiste Georges Schiffra enregistrait avec l'Orchestre National de l'ORTF, placé sous la direction de Manuel Rosenthal, le concerto numéro 1 pour piano de Frédéric Chopin, dont nous écoutions un extrait du troisième mouvement. Bonjour Jérôme Sandlars.
Bonjour Dominique Boutel.
Eh bien, vous faites maintenant partie de la troupe de Fabrication Maison. Et à propos de troupe, c'est un petit peu votre sujet dans le reportage ce matin, non ?
Tout à fait. Broadway, Londres, Paris, chaque dimanche matin à 11h, Laurent Vallière, comme vous le savez, le producteur de 42e rue sur France Musique, nous fait partager sa passion pour l'univers des comédies musicales d'hier et d'aujourd'hui. Un artiste, un compositeur, un producteur, une sortie de disque, un spectacle, rien ne lui échappe. Et quand on parle de spectacle, justement, dimanche dernier, Laurent accueillait dans le cadre de ses concerts privés en direct et en public un spectacle totalement original et interactif intitulé New. New, de quoi New. S'agit-il ?
C'est
ça que vous devriez me dire. D'un défi un peu fou, une comédie musicale totalement improvisée et inédite à chaque représentation. D'un côté, il y a une troupe composée de 5 comédiens chanteurs, 4 musiciens, une illustratrice et un MC, Florian
Bartsch.
C'est quoi
Bartsch. Un MC ?
C'est un maître de cérémonie.
Ah d'accord.
C'est le créateur du concept, donc Florian Bartsch. Et face à eux et derrière leur poste, des auditeurs de France Musique qui ont été invités à choisir le titre, le lieu de l'aventure et quelques notes de musique. Et à partir de là, c'est parti pour une heure de tourbillon ou improvisation théâtrale, musicale et visuelle s'entremêlent de façon ludique. Il est 10h du matin dans les loges du studio 105 de la Maison de la Radio. Laurent Vallière vient prendre un peu la température auprès de la troupe de New, une heure avant direct.
Bonjour, c'est responsable.
Thierry.
Enchanté.
Enchanté.
Merci d'être là.
Avec plaisir, merci de nous accueillir.
On est ravis.
Parce que vous n'avez jamais improvisé à 11h du matin quand même.
C'est pas souvent.
En répétition,
régulièrement.
Oui.
Mais en scène, non.
Même pour enfants, on joue plutôt à 14h, quoi. Même pour les petits.
Je sais pas si on a déjà joué le matin, non. Après, sur d'autres spectacles.
Sur d'autres spectacles, oui.
Chanson.
C'est une première. Une journée différente d'hier. Quelque chose de spécial. Un concept original. C'est un jour de première. Un jour de première.
Ce matin, New improvise. Ce matin, New
improvise.
Ce matin, New improvise. Ce matin, New improvise. Oui, ce matin, New improvise. Ce matin, New improvise. Ce matin, New improvise.
Comment ça fonctionne concrètement? C'est-à-dire que c'est le public qui choisit le thème de la comédie musicale? Comment ça s'opère?
Le public choisit le titre et le lieu où va commencer la comédie musicale.
Antoine Lefort, directeur artistique et pianiste de New.
Et ensuite, nous, on échafaude, on construit une comédie musicale entière, c'est-à-dire une scène d'ouverture et puis des personnages se mettent en place qui expriment leurs sentiments en chanson et puis l'intrigue se développe et tout ça est interrompu par des numéros, chanter, danser, voilà.
Come and meet those dancing feet. 42nd Street.
Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte.
La comédie musicale que la troupe de New va improviser intégralement en direct sur France Musique pour vous ce matin s'intitule « Les fruits de Shinkuji ». Ça se déroule dans un bar la nuit. Et nous avons demandé aussi les quatre notes de musique du thème musical. Alors Antoine est le directeur musical. Je vous demande de les jouer, ces quatre notes. C'est La, Si, Do, Ré. Antoine et tout l'orchestre de New. Allez-y, improvisez. C'est à vous. Merci.
Comment il est né ce concept, Florian Bartsch?
Alors, le projet est né en 2003-2004. On a testé les premières comédies musicales improvisées, à l'époque avec ma troupe anglaise d'improvisation théâtrale en anglais à Paris, les Improfessionnels. Et quelques années plus tard, je voulais le monter en français, un peu plus grand. On a casté des musiciens qui viennent du jazz, du classique, des fanfares. On a pris des chanteurs-comédiens qui viennent de la comédie musicale. De lyrique, de beatbox, de l'improvisation de théâtre classique. Et on a ajouté des imprographistes, donc les illustrateurs qui dessinent en direct. Et on s'écoute sur scène et on se connecte et on crée.
Toi, oui toi, écoute-moi bien. Tes pas t'ont guidé jusqu'ici. Tu es dans la rue du Vieux-Lac. Oseras-tu pousser la porte de notre cabaret.
Florian Bartsch, vous êtes le MC, c'est ça, de New, donc le maître de cérémonie. Ça consiste en quoi?
Le MC, le maître de cérémonie, et c'est un intermédiaire entre le public et les artistes sur le plateau. Ça veut dire que parfois, je m'amuse, donc j'arrête l'histoire et je demande au public de me donner un style de musique, une idée pour l'histoire, un objet, genre le héros ouvre son sac et je dis « Bing !»
Donc, il vient de trouver un habit. Quel type d'habit elle vient de trouver? Donc, public, dites-moi vite. Un collant. Quelle couleur? Un collant bleu. Merci.
Également, je regarde un tout petit peu, comment dirais-je, l'ambiance dans la salle. Parfois, je sens que les gens, le public chante avec nous. Donc, parfois, je fais danser, monter, chanter 300 personnes et ça donne quelque chose. Depuis 4 ans, je travaille très, très dur. Donc, pour s'améliorer, et le public suit complètement.
Et tout ça est accompagné de danse et de...
Exactement. Ça, c'est très intéressant comment on improvise la danse en groupe, parce qu'il faut clarifier la question qui lead, qui mène et qui suit. Donc, il faut être vraiment à l'écoute, il faut être généreux, il faut avoir l'esprit de l'équipe pour pouvoir alterner entre j'écoute ton idée ou je regarde ton idée, j'accepte ton idée, et ensuite, je développe, j'ajoute mon idée. Ce qu'on appelle le concept de « oui et ». Donc comme ça, on construit ensemble.
Tu pars, viens, tu me confies...
Je te confie le cabaret. Oui, je sais, c'est pas le bon moment, tu es très énervé, on est au milieu d'un embouteillage.
Non. Alors tu vois, ça justement, ça c'est le genre de nouvelles qui me détend.
Ah bon?
Ouais, et ben tu sais quoi? Soyons audacieux, puisque j'ai mis le frein à main, descendons de la voiture et finissons en métro. Allez.
Oui, c'est audacieux.
Jusqu'à quel point c'est improvisé, Florian Bartsch? Est-ce que tout est improvisé ou il y a quand même une trame quand même qui est récurrente d'un spectacle à l'autre?
Alors, j'ai dit oui, on est 100% improvisé, chaque spectacle, même si on a des, on va dire, des codes. On utilise les codes du storytelling, ça veut dire que la narration. Par exemple, ça dépend, est-ce qu'on va raconter une histoire avec un héros ou deux héros en parallèle, ou un héros, un protagoniste donc, et un antagoniste. Et nous, on se sert de ces modèles-là, on les automatise, on les apprend par cœur, pour après les oublier, pour construire. Et on va se rappeler qu'il faut faire des erreurs. Parce que l'impro, comme le jazz, l'impro théâtrale ou musicale, il faut faire avec, il faut l'utiliser. Donc si A fait une erreur, donc B ne va pas s'énerver, au contraire, il va prendre ça comme challenge, comme inspiration positive. Et ça crée une ambiance très bienveillante, très, très chouette dans l'équipe.
Freeze, j'aimerais bien la réponse en chanson. Dites-moi un style musical, elle va répondre en chanson. Salsa. Salsa, hein? Merci, une salsa pour le point.
Oh, 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 misère, misère. J'ai pris quelques grammes par rapport à hier. Misère, oh, le calvaire,
oh, calvaire.
Ne pas manger, avoir la tête en l'air, y a rien à faire. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim.
Le poids, le gras, je ne tolère pas ça. Non, le poids, le gras, je ne tolère pas ça. Le poids, le gras, je ne tolère pas ça. Le poids, le gras, je ne tolère pas ça.
On travaille beaucoup ensemble pour être à l'aise, pour connaître le style de comédie musicale que les comédiens aiment, leur style de voix, leur énergie. Et moi, je les reconnais, je sais les emmener là où ils vont briller et ils savent comment dialoguer avec moi. Donc c'est énormément de reconnaissance. En fait, on apprend à se connaître jusqu'à ce que les choses coulent et soient très naturelles sur scène, en lâchant complètement prise et en faisant, et en étant dans une forme d'état un peu supérieur de transe.
On reprend.
Comment vous travaillez ensemble avec Antoine Lefort, donc qui est directeur musical, et vous, comédien, chanteur?
Moi, je suis chanteur et j'ai découvert l'improvisation avec nous et donc la comédie, parce que je travaille essentiellement dans le milieu de la comédie musicale et de l'opérette. Et Antoine, on a un truc génial, on s'amuse beaucoup avec le style comédie musicale qu'on connaît très bien. Là, tout à l'heure dans le spectacle, je me suis amusé à faire ce qu'on appelle le magic chord. L'idée, c'est que je suis en train de parler, d'un seul coup, je lui fais un signe et il me fait tout da da do. Et mon personnage qui disait
Et là, j'entre dans le bar et tout da da da, la fille me dit, crois-le si tu veux, je te reconnais, tu t'appelles Mathieu, etc. Il y a un vrai enjeu dans ce genre-là qui est cette convention du personnage qui ne sait pas qu'il chante. Du coup, comment passer du texte chanté au texte parlé et réciproquement, pour pas que ça fasse attention, deux points, ouvrez les guillemets, nous allons chanter.
Voilà qui sent bon. Je vais me faire plein de bifton. Un bar sans son patron. Ça, c'est folichon.
Je parlais un jour avec un ami qui est un grand fan d'informatique, ce qu'on appelle aujourd'hui un geek. Et il me disait, mais dans quel état vous êtes lorsque vous faites ce spectacle de New? Et je lui disais, écoute, tu vois, l'état de la machine quand on fait New, c'est ce qu'on appelle la mémoire vive. Et quand on fait New, tous les sens sont en éveil, on est totalement disponible pour l'instant. Mais du coup, puisqu'on n'est pas non plus des machines, nous, on débranche forcément le disque dur. On ne peut pas faire mâcher les deux mémoires. Donc, si on est dans l'instant, on ne grave pas. Et donc, quand on sort des spectacles de New, très souvent, on ne s'en souvient pas.
Quelle étrange sensation, dans mon cœur des palpitations. Je ne m'y attendais tellement pas. Ce coup de cœur, il est pour moi. Oh, cet homme, je l'ai aimé. Abandonné, enfin le retrouver, je ne sais pas par où commencer.
C'était vraiment sympa et moi je sais que j'étais pas là, j'étais pas dans le studio, mais je l'ai vu sur internet car une vidéo a été tournée du spectacle.
Ouais, c'était très vivant, très vivant. Vous avez entendu Pierre Babola à la fin du reportage, l'un des comédiens chanteurs qui racontait qu'il ressortait presque amnésique du spectacle, tellement ils étaient investis pendant toute cette heure. En revanche, je peux vous dire que les spectateurs donc sondés dans le studio de 105 de la Maison de la Radio, ce jour-là étaient tous enchantés par ce qu'ils venaient de voir et d'entendre. Et du coup, j'en profite pour vous dire, Dominique, que la troupe News produira à partir du 3 novembre tous les mardis soirs à 20h au Théâtre Trévise dans le 9e arrondissement à Paris, et ce jusqu'au mois d'avril et peut-être davantage. Ça, c'est pour la version française du spectacle. Et puis, la version anglaise, c'est deux mercredis par mois au Théâtre Essaillon dans le 4e arrondissement à Paris toujours.
Super, et puis 42e rue, eh bien c'est tous les dimanches à 11h sur France Musique. Merci et à bientôt Jérôme.
À bientôt.
La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. Le cycle Piano d'Or vient tout juste de se terminer hier soir à la Maison de la Radio. Quatre très grands pianistes se sont succédés depuis une semaine dans l'auditorium. La pianiste géorgienne Elisabeth Leonskaya, le franco-américain Nicolas Angelich, le Québécois Louis Lortie et le jeune pianiste ouzbek Berzod Abdouraïmov.
Très international. Et on peut retrouver ces quatre concerts sur le site de France Musique, francemusique.fr.
Et Elisabeth Leonskaya avait choisi Mozart samedi dernier avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ici, on l'écoute en duo avec Sviatoslav Richter.
Elle est amusante cette version de la sonate Köchel 454 de Mozart, arrangée par Grieg pour deux pianos, interprétée ici par Elisabeth Leonskaya et Sviatoslav Richter.
Oui, il y a un côté boîte à musique.
Oui, c'est très amusant.
Ils sont très complices tous les deux, ils étaient d'ailleurs très amis.
Alors en dehors de la scène, Elisabeth Leonskaya est assez secrète.
Oui, elle est d'une très grande modestie, d'une très grande réserve, on sait peu de choses sur elle. Alors quand même, elle avait accordé au journal Télérama un entretien il y a plus de 20 ans, dans lequel elle parlait vraiment de sa relation à la musique.
La musique ne dit rien, la musique ne fait pas sens. Elle ne dit rien d'un deuil ou d'une naissance, elle ne console pas, elle ne tranquillise pas.
Elisabeth Lianskaya a l'air de dire, au fond, que c'est un peu comme la vie, ça n'a pas de sens, et la musique vient donner une consistance à ces énigmes. Alors évidemment, le journaliste est un peu désemparé devant ce questionnement, et il lui demande « Mais alors pourquoi jouez-vous ? » « Mais parce que c'est ma vie, parce que j'ai été confrontée à la mort des gens que j'aimais, parce que plusieurs tragédies ont élargi mon cœur et que je peux y engouffrer encore plus de musique. » Tout est dit.
Moussorski, les tableaux d'une exposition, Elisabeth Lianskaya, le ballet des poussins dans leur coque.
Un autre immense pianiste, et je pèse mes mots, il était l'invité de l'orchestre philharmonique hier soir à la Maison de la Radio, Nicolas Angelich.
Nicolas Angelich qui vit en France depuis de nombreuses années maintenant.
Oui, Nicolas Angelich qu'on dit américain, il est en fait d'une mère d'origine russe, elle-même d'un père roumain et d'une mère slovaque. Quant à son père, il vient du Monténégro. Et il y a d'ailleurs quelque chose, je trouve, de sans frontières chez Nicolas Angelich. Il semble pouvoir tout jouer avec une seule et même idée de la musique qui serait faire le texte. Mais pas de façon austère, non, faire le texte, ce n'est pas quelque chose de desséché, dit-il. On joue comme on est, donc pas besoin d'en faire des tonnes, tout passe. Oui, tous les répertoires sont possibles, en effet, pour Nicolas Angelich. Et dans Bach, par exemple, c'est magnifique. Le troisième pianiste de piano d'or, c'est Louis Lorty.
Louis Lorty que l'on entend trop rarement en France.
Oui, c'est vrai. Raison de plus pour réécouter le deuxième concerto de Chopin sur le site de France Musique. C'était le concert donné jeudi soir dernier avec l'Orchestre National de France et Emmanuel Krivine. Et la xième raison, s'il en fallait encore, c'est que Chopin, lui, va bien. Le son est clair, les couleurs sont variées. Il aime à doser ce qu'il donne dans Chopin avec toujours beaucoup d'émotion. Et enfin, terminons par le plus jeune, qui est encore une découverte, peut-être, pour les auditeurs, le pianiste ouzbek Berzod Abdouraïmov, qui a fait ses débuts en France en 2012, fulgurant, enflammé. Vendredi 16 octobre, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Prokofiev, le troisième concerto. Herzog Abdourahimov en concert à l'auditorium de Radio France. C'était vendredi 16 octobre dernier avec l'orchestre philharmonique de Radio France et le chef Vassili Petrenko.
Quatre pianistes différents donc, mais magnifiques. Quatre concerts piano d'or avec ces quatre grands interprètes à retrouver sur le site de francemusique.fr où l'on peut écouter tous les concerts pendant 30 jours. Agenda. Ce soir au studio 104, dans le cadre de l'exposition La Fiac hors les murs qui s'y tient et que je vous invite à venir écouter ici à la Maison de la Radio, concert-événement du chanteur islandais Ragnar Kjartansson and the All Star Band. C'est à 22h. Si le cœur vous en dit, venez nous voir à la Maison de la Radio mardi soir, 27 octobre, à partir de 20h. Les mardis de la musique ancienne sont en public. Édouard Forêt Colfuti reçoit trois ensembles, La Rêveuse, Radio Antiqua et le Solazzo Ensemble. Et mercredi 28, toujours au studio 104, mais à 20h, c'est Phèdre de Racine qui sera joué par la troupe de la Comédie Française pour un spectacle radiophonique inédit avec Romain Falic au théorbe et Benjamin Attahir au violon. Toutes ces infos sont sur le site de Fabrication Maison.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité.
Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors on part à Nice aujourd'hui, vous nous avez dit la semaine dernière.
Oui, mais en fait j'ai menti.
Ah bah c'est du joli.
Bah c'est comme ça maintenant. Et on reste à Marseille sur la radio PTT Marseille.
Parce que finalement c'est une radio importante.
C'est une radio importante. La semaine dernière on avait exploré autour de la réouverture de la grande salle de spectacle de Marseille, l'opéra, les grands artistes lyriques qui sont venus. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même pas oublier qu'à Marseille à cette époque-là, presque jusqu'à la guerre, il y avait quand même quelque chose de très important autour d'artistes un petit peu fameux comme Pagnol, Rému, Fernandel, Lalibert, enfin oui, des artistes
des
de second plan. Hein. Il y avait quand même la naissance d'une fantaisie marseillaise qui va monter jusqu'à Paris, qui va connaître un grand succès au travers de films, d'opérettes et de tas de pièces de théâtre aussi. Donc, Radio PTT Marseille s'en est fait l'écho et je trouvais que c'était dommage d'aller directement aujourd'hui à Nice. Donc, restons à Marseille.
Et on commence par quoi ?
Alors, on commence par une chanson un petit peu ancienne, qui date de 1921, qui est chantée par Suzanne Chevalier. Suzanne Chevalier est peut-être de celle qui a fait la transition entre la musique populaire des quartiers de Marseille et la scène.
La grande musique.
Voilà, et la grande musique. Elle était chanteuse légère. Elle est partie très très tôt ensuite en Amérique du Sud. Elle s'intéressait au tango, mais avant de partir en Amérique du Sud, elle a chanté les petites chansons de son ami Vincent Scotto, « Ça sent bon la cigale ». C'est pas le titre, mais je trouve que ça sent bon la cigale. Ça s'appelle la canson la plus polido.
Oh, mais c'est joliment dit.
Je crois que je parle très bien de Marseillais.
Oui, allez, on écoute. La canzone la plus pulido.
Voilà.
J'aime bien ce titre.
Une jolie petite chanson d'amour, de beau ciel, de bien vivre, de joie.
Chantée par Suzanne Chevalier, des concerts marseillais. Et c'est un disque gramophone, Marseille, 1921.
Voilà. Alors là, on est dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à la naissance d'un genre. La naissance de l'opérette marseillaise qui donnera bientôt la naissance au film marseillais, etc. Et peut-être la vedette plus que Fernandel, qu'on connaît parfaitement, qui fait le lien entre les deux, c'est Henri Alibert. Henri Alibert, comme Suzanne Chevalier, s'appuie sur des thèmes et sur un parler marseillais un petit peu vivant, encore dans les rues, de façon à tout de suite capter son public. Et vous allez le voir, en l'espace de deux chansons, on passe de quelque chose de léger, de très marseillais, à quelque chose qui déjà appelle vers le Broadway du lieu, c'est-à-dire la Canebière, je crois. Alors, pour le moment, on est encore dans cet entre-deux avec Kenovi, une chanson de Chora, Chidal et Recagno qui a été créée en 1929. C'est un très beau disque pâté électrique, pas facile à trouver et en très bon état. Écoutez-moi ça.
Dans notre Marseille pleine de lumière, il est de mots vraiment qui pour nous sont charmants. Ces deux mots sont chez nous si populaires, comme moindre événement, partout on les entend. En chemin, rencontrant un bon copain, tout joyeux, vous criez tant dans la mer. Oh, Kenobi, Baptistin, te voilà. Oh, Kenobi, par exemple, c'est toi. Je suis content de te revoir, vieux frère. Viens prendre un verre et sans manière. Oh, Kenobi, tu prends d'eau de Vichy. Oh, Kenobi, tu prends pas de pastis. J'ai deviné, en te voyant marcher à petits pas, que dans le pastis, pardi, tu y es déjà. L'oncle Jeannet est heureux en ménage, mais sa femme pourtant a un noir comme amant. Un jour l'oncle me dit, malgré mon âge, je vais être papa, vraiment j'en reviens pas. Oui, mais quand arriva le nouveau-né, à sa femme Jeannet dit renversé. Oh Kenobi, boudiou que désespoir. Oh Kenobi, le petit c'est un noir. Tu as dû manger par envie, par caprice, pour qu'il noircisse, tu régalisse. Oh Kenobi, ah mais j'ai deviné le teint sombre de notre nouveau-né. Comme j'avais toujours le cafard et la racénie, à la longue, mon noir, ça l'a noirci par du lit. Lisa a l'air d'une sainte litouche, et à tous sa maman en fait des compliments. Ma fille risque pas qu'on me la touche, mais d'elle j'ai pas peur, nul ne prendra sa fleur. Mais un jour, la maman très étonnée dit à son ingénu qui rougissait. Oh Kenobi, Lisa, tu grossis bien. Oh Kenobi, faudra voir le médecin. Ce serait pas des fois une blessure, une entorsure, une escorsure. Oh Kenobi, tu dis que tu es tombé avec Swan sur un manche à balai. Un peu d'idée, tu vas tomber sur le devant en plein. Par derrière, au moins tu restes rien. Oh, pas d'adva.
Eh, hey, Kenobi, j'y veux pas.
Eh ben Kenobi, peut-être de l'humour, peut-être de l'humour un petit peu grinçant et d'un goût
non,
douteux.
Non, je sais pas pourquoi vous dites ça. Non mais c'est drôle, c'est vraiment une expression que je connaissais pas moi, Kenobi.
Vous n'êtes pas marseillaise peut-être?
Non, je ne suis pas marseillaise.
Et voilà, tout s'explique.
Par contre, Henri Alibert l'était, chanteur marseillais avec orchestre. Disque Pâté Saphir, Paris 1929.
Alors là, on le sent, on fait un pas décisif. On passe de la petite musique,
un pas régional,
chansons,
on va dire.
Un pas régional. Les rythmes sont plus enlevés, on a l'œil qui est tourné vers la capitale. Et avec la dernière chanson que vous chanterez en chœur avec tous les auditeurs, je pense qu'on est en plein dans le vif du sujet. Si je vous dis que c'est le jazz marseillais qui accompagne Henri Alibert lors d'une longue promenade dans un boulevard assez célèbre à Marseille, vous me répondez ?
La Canebière.
Et c'est parti.
Aux quatre coins du monde, indiscutablement, on aime sa faconde et ses mille défauts charmants. Elle a la grâce brune des filles du midi, il n'en existe qu'une, voilà pourquoi chez nous l'on dit. On connaît dans chaque hémisphère notre canne-canne-canne-canne-bière. Et partout, elle est populaire, notre canne-canne-canne-canne-bière. Elle part du vieux port et sans effort, coquette de sort, elle exagère. Elle finit au bout de la terre, notre canne, 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 bière. Comment vous la décrire, son charme est sans pareil. Joyeuse, elle s'étire comme un lézard au soleil. Internationale, pour l'amour tronc de l'air, elle est la capitale des marins de l'univers.
on connaît dans chaque hémisphère notre canne-canne-canne-canne-bière. Et partout, elle est populaire, notre canne-canne-canne-canne-bière. Elle parle du vieux port et sans effort, aucun de sort, elle exagère. Elle finit au bout de la terre, notre canne-canne-canne-canne-bière. Il est né sur la canne-bière, il est né le dit d'un enfant, il est né du Port Saint-Jean.
C'est quand même quelque chose.
Ah, c'est pas rien.
Non, ça, c'est pas rien.
C'est pas Cocorico marseillais du tout. Hein.
Non, pas du tout. C'est Vincent Scotto et René Sarville.
Oui, alors c'était son grand compère librettiste qui écrivait toutes sortes de farces et de galéjades qui sont restées assez fameuses. Cette chanson est toujours connue.
Mais oui. Ça et s'appelle Un de la Canne-Bière.
Oui, alors c'est le nom de l'opérette et la chanson s'appelle Canne, Canne, Canne-Bière.
C'est original. Bon, c'est un disque pâté 1935 avec un accompagnement du jazz marseillais.
Voilà, le jazz marseillais qui va faire les folles soirées de Marseille et de Paris, puisqu'on viendra en nombre suivre ces opérettes qui sont un peu conçues comme des revues. Il y a des tableaux, il y a des histoires d'amour, de déchirement. Enfin, c'est sensuel.
On reste à Marseille alors la semaine prochaine ?
On reste sur la Riviera.
D'accord. À la semaine prochaine ?
À la semaine prochaine donc.
Et voici notre rubrique Parlez-moi de musique dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé René Fauquet. Hicham, 6 ans, est l'un de mes élèves de cours préparatoire d'une banlieue parisienne. C'est un enfant réservé, timide peut-être. Peu souriant, il suit le mouvement sans se faire remarquer, mais d'un air maussade, peu encourageant. Aujourd'hui, jour de pluie. Pour la leçon d'éducation physique, nous nous réfugions dans une salle de classe désaffectée au lieu d'aller sur le stade comme d'habitude. Muni d'un tambourin, je propose des rythmes aux enfants, à eux de se déplacer en essayant d'harmoniser ce qu'ils entendent et ce qu'ils font. Marcher, trotter, galoper, ralentir, accélérer, s'immobiliser. Puis je demande un volontaire pour jouer du tambourin. Les amateurs ne manquent pas. C'est tellement drôle de se faire obéir, y compris par la maîtresse. L'agitation grandissant, le retour au calme s'impose. Je branche mon petit magnétophone, je mets une cassette enregistrée au piano par un des fils de ma maison. Je me souviens très bien du titre ce jour-là, Aline, une chanson à la mode. Les enfants connaissent la consigne. À bonne distance les uns des autres, on écoute, puis la tête tombe sur la poitrine, les épaules s'affaissent, le dos s'arrondit, les genoux plient, touchent le sol, recroquevillés, on ne bouge plus jusqu'à la fin du morceau. Je jette un œil sur l'ensemble des enfants et que vois-je ? Debout, au fond de la classe, pétrifié de bonheur, Hicham me regarde sans me voir. Il écoute intensément la musique. Il est seul au monde. Ce spectacle m'enchante. La cloche de la récré retentit. Allez hop, tout le monde dehors. Au passage, Hicham et moi échangeons un regard complice. La musique a tout changé entre nous. Une fois de plus, je me dis que la musique à l'école devrait être une priorité. Pourquoi, en 1940, chaque école de la capitale avait un professeur de chant, de solfège ? Ne pouvait-on espérer que des dizaines d'années plus tard, toutes les écoles de tous les villages seraient au diapason ? Hélas ! Thank you. Pour illustrer le souvenir musical de René Fauquet, nous avons écouté quelques notes de galoubet et de tambourin, puis la musique d'un été 42, jouée par Michel Legrand au piano et Catherine Michel à la harpe. Cette rubrique, vous le savez, se nourrit de vos souvenirs. Alors, n'hésitez pas, racontez-moi l'un de vos grands moments avec la musique et je me ferai un plaisir de vous lire à l'antenne. Question de cœur. Bonjour Sophie Jeannin.
Bonjour.
Dans Questions de cœur, tous les samedis matins, Sophie, vous répondez à des questions que peuvent se poser des gens qui intéressent la voix ou les pratiques chorales. Alors, une des questions que l'on peut se poser, et une question assez étonnante d'ailleurs, pourquoi entend-on parfois des chœurs chanter faux ?
Ah oui, pourquoi est-ce qu'on chante faux parfois ? Écoutez, ça arrive partout. Il y a plusieurs raisons pour ça. Et on peut imaginez que ça peut être tout simplement une question de fatigue, fatigue vocale ou une fatigue qui nuit à la concentration. Il y a aussi des phénomènes qui vont pouvoir provoquer que ça détonne ou que ça chante bas. Et ça peut être qu'on a une note répétée, par exemple, on chante la même note. Et vous savez que quand on fait quelque chose de façon répétée, on a comme un autopilote qui se met en marche dans la tête.
Comme un avion.
Voilà. Mmh. Et ça fait qu'on soigne peut-être moins la deuxième fois. Donc, il faut essayer de travailler consciemment contre ça. On a également, dans la nature humaine, l'idée que quand on chante des fréquences différentes, on monte et on descend. Et on a aussi, dans le chant, souvent des lignes, on va dire, descendantes. Et on a tendance, parfois, à détonner, à chanter bas sur ces lignes-là. Et donc, il faut travailler aussi activement contre ça. On a aussi quelques voyelles qui peuvent être problématiques, qui se produisent de façon différente.
Comme quoi ?
Comme le A, par exemple. Ah oui. Le A déformante au niveau acoustique, qui a une forme un petit peu différente. Donc, si on passe d'une voyelle à une autre, il faut que le chef de chœur travaille avec ses chanteurs pour que, justement, ce passage ne provoque pas un changement d'harmonique qui fait baisser le ton. On peut aussi retrouver dans certains chœurs peut-être des chanteurs qui ne chantent pas dans leur bon pupitre, donc peut-être ils sont aussi dans l'effort de produire toujours quelque chose qui pour eux n'est pas naturel. Et on peut même entendre parfois des tonalités qui se fatiguent. Alors, des tonalités qui se fatiguent, ça peut être toutes sortes de choses. Mais imaginons, par exemple, que notre chœur imaginaire chante en do majeur. Le do majeur est quelque chose qui est simple, parce que nous avons, par exemple, les touches blanches sur le clavier. C'est souvent des tonalités où on commence dans son apprentissage musical. Donc, du coup, c'est une tonalité que le cerveau enregistre, qu'il entend, qu'il réentend. Et parfois, quand on chante toujours dans la même tonalité, pareil, notre autopilote se met en marche et on soigne plus, peut-être, avec autant de soin. Donc, on peut aussi jouer à moduler et à changer les tonalités dans les petites pièces. Et donc, parfois, transposer et faire les choses différemment pour justement voyager entre les tonalités. Donc, il y a quand même des recettes pour trouver les solutions.
départ, un extrait de la pièce Illumination de Philippe Hersant dans l'interprétation qu'en donnait le chœur de Radio France sous la direction de Sophie Janin le 20 septembre dernier à l'auditorium de la Maison de la Radio. Ce que l'on entend, c'est un chant traditionnel nord-coréen. Il fait partie du très beau disque que vient de faire paraître la firme Okora avec la chanteuse Yoo Ji-suk, figure emblématique du Seodo Sori. Accompagnée de musiciens à la flûte, au hautbois, au tambour, elle chante la récolte, une promenade en bateau ou le tassage de la terre sur la tombe. Et ce matin, vous pouvez gagner ce disque. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire dans les premiers sur la page de Fabrication Maison sur le site de francemusique.fr. Les premiers d'entre vous pourront faire de chez eux le voyage en Corée. Merci à Pauline Boisaubert qui a préparé cette émission, à Cyriel Weber qui l'a réalisée, avec la complicité de Dimitris Capolan. Bon week-end à tous.